bon, ça génère de la pollution. Et en fait, ça passe dans le langage commun dans les années 70. Dans les années 70, de façon un peu plus générale, on commence à connaître le principe de pollution. On commence à se rendre compte que ça a des conséquences sur l'air, sur l'eau, sur les écosystèmes dont on fait partie. Et voilà, dans les années 70, le concept de pollution se développe et on comprend de plus en plus l'impact des activités humaines sur la Terre.
Quand a-t-on commencé à lutter contre la pollution ?
Bonne question. Probablement depuis qu'elle existe, on a besoin des scientifiques pour comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe et qu'on a pu l'évaluer, le mesurer, le comprendre, alors on va pouvoir mettre en place des organismes qui vont essayer de réguler, comme le GIEC, peut-être passer des lois aussi pour dire tiens, il y a cette pollution qu'on connaît, comment on fait pour la réduire, voire l'éliminer complètement.
Merci beaucoup de vous être déplacé pour répondre à nos questions. Bonne année à vous et à tous nos auditeurs et souhaitons moins de pollution.
Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous, à tous les élèves DCE2 de l'école Maurice Thorez, à tous les élèves d'Ivry et très bonne année à tous.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand. Cette émission est consacrée à Jean-Jacques Bedu et au premier volume d'une trilogie qui fera date. L'Odyssée du savoir, sous-titré Vraie sagesse et fausses croyances, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Jean-Jacques Bedu, qui a déjà toute une œuvre à son actif, a remporté le Grand Prix de la biographie de la Société des gens de lettres et a fondé le site internet et le prix Mare Nostrum consacré à la littérature méditerranéenne. Il nous propose ici, dans ce premier tome de 696 pages, une passionnante enquête sur les fake news qui ont traversé l'histoire. Dans une récente chronique publiée dans le journal Le Monde, Roger Paul Droit voit dans ce premier volet de cette Odyssée du savoir un monumental panorama qui peut se lire comme un guide de voyage dans l'histoire de l'aventure de la connaissance humaine. C'est assurément une fresque encyclopédique du troisième millénaire que je vous invite à découvrir en compagnie de Jean-Jacques Bedu. Je tiens juste à préciser que cet entretien a été enregistré en extérieur, plus exactement dans un jardin public, ce qui explique, veuillez m'en excuser, certains bruits de fond. Mais le hasard et la nature participent aussi à l'aventure du savoir et je suis sûre que l'érudition de Jean-Jacques Bedu saura vous convaincre des bienfaits d'une telle réflexion. Jamais en effet l'information n'a été aussi accessible et jamais nous avons eu autant besoin d'esprit critique face au mirage d'un passé sans cesse réinventé.
Jean-Jacques Bedu, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous venez de publier aux éditions du Cerf, l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. Le sous-titre ici a son rôle à jouer, puisque j'ai l'impression, on s'interroge sur vraie sagesse et fausse croyance. Est-ce que ça signifie que vous préférez le mot sagesse au mot croyance? Ou peut-être, l'idée est peut-être la suivante, c'est vrai que pour une sagesse, il faut du temps, alors que la croyance est immédiate.
Alors, tout à fait, c'est une très belle formule. J'aurais même presque pu l'employer dans le livre. Je vais faire un petit peu d'histoire. En réalité, cet ouvrage fait écho à mon tout premier livre qui a été publié en 1990, qui s'appelle Rennes-le-Château, autopsie d'un mythe, je me suis retrouvé confronté à l'époque à une histoire absolument rocambolesque d'un curé qui avait trouvé un trésor dans l'Aude, donc la Buissonnière. C'est une histoire qui était très connue encore dans les années 80. Elle est née dans les années 60, mais il s'agissait d'une supercherie littéraire absolument incroyable. Ce que j'ai pu totalement démonté. Et à l'époque, j'étais persuadé que j'avais écrit le livre qui allait tout chambouler, qu'on n'allait parler plus que de moi. Et en fait, que nenni, non, je me suis aperçu que, eh bien, on préférait croire avant de savoir et qu'on avait une appétence incroyable pour le mystère. J'ai fait de nombreuses conférences et à chaque fois, alors que j'arrive à démontrer tout ce qui a été écrit n'était que supercherie, en fait. Hein. On est un peu à l'époque, quand l'affaire a démarré, c'est le matin des magiciens, vous vous en souvenez, hein, le réalisme fantastique. Donc, en fait, cette histoire est exactement sur le même paradigme. Et à l'issue de chaque conférence, des gens venaient me voir en me disant « Vous avez raison, vous avez raison. » Mais il y a quand même, il y a quelque chose. Et ça c'est vraiment un fait qui a toujours poser un problème en disant, mais quand même, on arrive à prouver, il y a de fausses croyances, il y a des fake news, ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, voilà. Comment peut-on y croire? Et là, je me suis très, très longuement interrogé avant de découvrir les travaux sur des sciences cognitives qui m'ont beaucoup expliqué notre fonctionnement du cerveau. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage, justement de comparer et puis de revenir au grand mythe de l'humanité, des origines, donc des origines jusqu'à l'Antiquité tardive pour ce premier tome. Et nous serons du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance pour le second. Et nous irons jusqu'à l'intelligence artificielle pour le troisième. Donc voilà le vaste programme dans lequel je me suis lancé.
Alors aussi, en couverture de votre livre, et je crois qu'il y a le disque de Phaistos, ça évoque la crête, bien sûr, le linéaire A, le linéaire B. C'est un peu le jeu de loi de la trace écrite. Et ce fameux disque de Phaistos, je dirais presque comme tout disque, il y a la face A et la face B. Ce qui est intéressant dans votre livre, Jean-Jacques Bedu, c'est que vous nous montrez bien aussi les deux temps du fonctionnement du cerveau.
Alors, avant de parler du cerveau, je vais vous parler de la couverture. Ce qui est intéressant, c'est que la couverture, elle n'est pas de moi, c'est l'idée de l'éditeur. Alors, le disque de Phaistos a cette particularité extrêmement intéressante, c'est qu'il n'est pas décrypté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas encore. Je pense qu'on saura un jour, parce qu'on va finir par décrypter effectivement le linéaire B. Donc, c'est sûr qu'on y arrivera. On a longtemps pensé même que c'était un faux, jusqu'à ce qu'on retrouve un équivalent. Donc, non, c'est pas un faux. Et je pense que c'est une idée assez géniale de l'éditeur, justement, c'est peut-être un petit clin d'œil en disant, voilà, j'essaye de démystifier, mais voilà, dans la couverture, quelque chose qui reste mystérieux, le disque de Phaistos. Alors, quant au fonctionnement du cerveau, voilà quelque chose de très, très intéressant, dont je parle dans l'ouvrage, qui est lié justement au principe donc, de croire avant de savoir. Donc, il faut savoir que les travaux de Daniel Kahneman, qui est psychologue, mais qui a été prix Nobel de l'Académie, sont très, très intéressants. En fait, notre cerveau fonctionne selon deux systèmes. Un système 1, qui est intuitif, extrêmement rapide. Imaginez, donc, vous entendez un bruit, imaginez, vous étiez à l'époque du temps de Sapiens, hein, vous entendez un bruit dans un forêt, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est sûrement un prédateur, donc là, il faut mieux partir extrêmement vite. Donc, ça, c'est le système 1. C'est ce système, aujourd'hui, en défi, qui régit, parce que c'est un système depuis la nuit des temps, hein, donc il régit notre question de survie. Donc nous vivons sous le système 1, et encore plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de choses. On est dans l'instinct, on est dans la passion, on est dans la réaction immédiate. Le système 2 est le système évidemment de la réflexion et de la raison. Il est beaucoup plus compliqué, d'abord parce que notre cerveau n'a pas envie de l'activer. C'est lui hein, qui ne le souhaite pas. Il consomme énormément d'énergie. Donc, il faut savoir que le cerveau consomme à peu près 20% de l'énergie de notre corps. Imaginez, donc, et puis il ne pèse pas très, très lourd. pèse même moins chez d'autres. Et donc 20%, à un moment donné, il faut l'alimenter. Et une fois qu'il a, une fois qu'il a terminé son cycle, il réclame et il dit « j'ai faim ». Voilà. Donc, première chose qu'on fait, on se précipite vers le frigo et on va chercher du glucose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'active pas notre système 2 extrêmement rarement. Donc, ce qui est intéressant dans notre système cognitif également, c'est que il y a le biais des correspondances. Donc, vous avez vu dans le livre, vous avez je parle beaucoup de prétendus mystères qui n'en sont pas en définitive, hein, que ce soit Gobekli Tepe, les pyramides, Stonehenge, etc. Pour nous, c'est grandiose. Nous sommes d'accord. On ne pourra pas admettre, et on refuse encore aujourd'hui d'admettre, que ce sont parfois des paysans, des chasseurs-cueilleurs qui ont pu ériger.
Incroyable, mais vrai.
Voilà, pour la fameuse formule hein, des années 80 de cette célèbre émission, qui était très très intéressante d'ailleurs. Oui, incroyable mais vrai, mais on n'admet pas, on refuse d'admettre effectivement que c'est été construit par des êtres qui étaient des êtres que l'on pensait inintelligents. Eh bien, c'est faux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de correspondance. Il y a un autre point, c'est que notre cerveau aussi déteste le hasard. Et non seulement il n'accepte pas ça, mais il lui faut une explication à tout. Puisse elle être totalement délirante, mais il faut une explication. Voilà. Donc c'est ce qui nous amène à, face à des vraies sagesses, à opposer des fausses croyances. Et notre monde aujourd'hui, il est vraiment empli de fausses croyances.
Voilà. Alors ça m'amène à ma question, un peu, que j'aurais dû être la première question. Pourquoi à ce moment précis, Jean-Jacques Bedu, avez-vous décidé de publier cette somme de connaissances? Parce qu'il y a le savoir, mais le savoir, c'est différent que la connaissance. Attention, il y a des nuances dans votre... Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, il y a un glossaire. On en parlera en fin de conversation, qui est très important. Mais pourquoi à ce moment précis? Alors vous dites, notre cerveau forgé pour la survie avant la vérité est une machine à croire avant d'être une machine à savoir. Jamais l'accès au savoir n'a été aussi simple et pourtant jamais la confusion n'a semblé si grande. Comment expliquer cette fascination pour les vérités alternatives, cette méfiance croissante envers les savoirs institutionnels, cette perméabilité aux grands récits bouddhistes qui se propagent à une vitesse foudroyante sur les ondes? Eric, pourquoi à l'ère de l'information, les fausses croyances sur notre passé semblent-elles plus séduisantes que jamais? C'est vrai que on a tout en main. On a tout. Et pourtant, il faut faire le tri.
Alors, il y a eu un moment, parce que j'ai écrit ce livre, donc depuis 2018, je n'avais rien publié, mais j'avais continué toujours à travailler, à amasser de la documentation et à m'intéresser à ces thématiques. Il y a quand même eu également un déclic très important qui a orienté cet ouvrage, c'est en 2022 la série Ancienne Apocalypse sur Netflix. Alors, cette série a été considérée par The Guardian comme le documentaire le plus dangereux de l'année, donc aux États-Unis. Alors, Ancienne Apocalypse met en scène un journaliste. Ce n'est pas un problème qu'il soit journaliste. Hein. Graham Hancock, qui dans le milieu est surnommé Pyramidio. Donc, c'est vous dire, nonobstant ce fait, il vend des millions d'ouvrages. Hein. Donc, il a écrit sur les pyramides, il a écrit sur de nombreux mystères. Et donc, a été publié cette série à partir de 2022, où il nous raconte, en se mettant en scène, alors... C'est très bien fait et Netflix l'a très bien réalisé. Donc, vous avez cet homme qui est seul, il y a une musique qui est envoûtante, il y a de très, très belles images, de très belles mises en scène. Et il est seul contre tous. Et tous, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté scientifique. Voilà. Et il nous annonce qu'aux alentours de moins 13 000 avant notre ère, il y a eu un cataclysme mondial. Alors, on pourrait penser au déluge, on parlera peut-être éventuellement du milieu du déluge tout à l'heure, qui a fait disparaître une société technologiquement évoluée, société, bien sûr, qui nous aurait tout appris. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'en plus, c'est une société blanche. Voilà. Donc, c'est du racisme déguisé en mystère. Et là, pendant 12 épisodes, c'est-à-dire une première saison et une deuxième saison, on nous martèle ceci, c'est-à-dire que nos ancêtres étaient tout à fait incapables d'ériger les pyramides, étaient tout à fait incapables de faire les découvertes qu'ils ont faites, d'ériger tel ou tel temple. Non, il y a automatiquement eu soit une civilisation supérieure, ou pire encore, Et là, je vais ramener aux travaux, enfin, à l'ouvrage d'Heinrich von Däniken, donc, qui s'appelle dans la version originale The Shadow of Gods. Donc là, on est à la fin des années 60. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure du réalisme fantastique, mais là, c'est presque encore pire. Donc voilà un personnage qui est un hôtelier. Mais là, encore, ce n'est pas un problème. On peut être un autodidacte. Je suis un autodidacte. Donc c'est un hôtelier donc, qui, suite à des malversations en Suisse, est mis en prison. Il va écrire un livre. Bon, on a déjà connu quelqu'un en prison qui a écrit un livre, mais bon, là, c'est moins, ça va être moins grave. Donc, alors lui, c'est un malin, il va poser 238 questions dans son livre. Mais il pose des questions, mais la manière dont il pose les questions, en fait, ce sont des affirmations. Donc, d'après lui, ce n'est même pas une société technologiquement évoluée, ce sont des extraterrestres. Donc, c'est la théorie, la fameuse théorie des anciens astronautes. Donc, qui à un moment donné, serait arrivé sur Terre et nous aurait apporté toutes les technologies possibles. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. C'est quand même 70 millions d'ouvrages vendus. Et il vient de décéder en janvier 2026, d'ailleurs, Heinrich von Däniken. Voilà. Donc,
c'est... Vous parlez aussi, moi, j'ai bien connu, il y a les Charroux, d'un dénommé Charroux, c'était, je crois, chez Robert Laffont, où il y avait une collection... Alors, on est attiré par le mystère. Et c'est vrai que l'être humain, c'est ce que vous montrez. Et la question que vous posez, Jean-Jacques Bedu, c'est qu'à force de vouloir donner du sens, c'est un peu contre-productif. Est-ce qu'on veut donner du sens à tout, et y compris, on voit, quand ce n'est pas explicable, ça nous pose un réel problème.
Oui, c'est ce que j'expliquais, effectivement. À un moment donné, il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas explicables. Je dis bien encore, mais elles vont le devenir un jour. C'est une évidence. Le problème, c'est ce que j'ai essayé dans cet ouvrage, c'est de donner une très très large place à la communauté scientifique et à tous les travaux académiques. Le problème de ces travaux académiques, c'est qu'ils ne pèsent pas lourd face aujourd'hui aux best-sellers dont vous avez parlé et cette fameuse collection. On a tous dans notre bibliothèque, bon, j'en ai quand même un paquet de ces ouvrages noirs là. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait cette collection de chez Robert Laffont.
Le monde inconnu.
Non, le port du mystère, je ne sais pas, il y avait le mot mystère intérieur, ça fait un carton. Puis après, ça a été repris chez J'ai lu avec vos souvenirs, les petits. Mais voilà, ça faisait un carton absolu à l'époque. Mais ça, on était dans les années 70.
La revue Planète.
Oui, bien sûr. Là, ben oui, ça, c'est suite au Matin des Magiciens. Donc là, on avait toute une bande qui ont monté des supercheries. Et ça fonctionne bien. Et je vous dis, notre cerveau aime ça. Il aime des histoires simples, courtes et rêvées. Voilà. Une réalité, en fait, il faut bien se rendre compte qu'une réalité sans mystère serait absolument atroce. Voilà, tout simplement. Donc on a, même moi aujourd'hui, j'ai besoin de mystère. La preuve, si j'écris ce livre, c'est qu'à un moment donné, des fois, ben, je plonge. Et puis après, je me renseigne, je travaille. Je dis, ah ben non, c'est pas ça, zut. Et si la réalité, en définitive, elle n'était pas plus belle? Et c'est la question que je pose.
Ouais. Combien d'années pour un tel livre, Jean-Jacques Bedu? C'est quand même une masse de travail colossale. On peut le lire comme une encyclopédie, comme une poétique du savoir aussi. On peut le lire comme un livre de chevet. Combien d'années de travail et de réflexion aussi? Parce qu'il a fallu organiser tout ça.
Alors en fait, c'est très très en amont de cet ouvrage. Donc j'ai publié en 2018 Les Initiés chez Robert Laffont. Donc on parle de personnages qui sont absolument exceptionnels. Donc on a parlé d'initiés. Bon, on pourrait gloser sur ce terme, hein, évidemment.
Délit d'initié.
Voilà. Moi, j'aime bien ce que disait Villiers de Delisle-Adam, « Nul n'est initié que par lui-même ». Voilà. Et donc, en fait, j'avais accumulé depuis les années 2014, hein, donc une grande... j'ai une très, très grande bibliothèque, bien sûr. Oui. Donc j'ai énormément pris de notes, j'ai beaucoup travaillé, et ce livre est la continuation des initiés de 2018. Donc dès 2018, j'ai continué quand même à travailler sans avoir d'éditeur sur cette thématique-là, parce qu'il y avait des choses que j'estimais avoir oubliées ou n'avoir pas pu dire dans ce livre-là, parce que j'avais fait démarrer les initiés en l'an 1000, mais pour moi ça démarrait avant, et donc j'avais commencé à faire ce travail. Donc je l'ai en fait initié en 2018. Il faut compter, le premier tome m'a pris presque 3 ans, hein, un petit peu plus de 3 ans d'écriture, le deuxième pareil, donc c'est à peu près ce qu'il faut compter, mais j'arrive pas dans un terrain, si vous voulez, qui est totalement inconnu pour moi. C'est la chance que j'ai.
Alors aussi, ce qui est très important, Jean-Jacques Bedu, c'est que vous nous remettez, alors vous êtes opticien à l'origine, hein, donc je dirais la justesse de la vision, ça vous connaît. Vous dénoncez l'emploi abusif de certains mots, d'une certaine terminologie. Par exemple, le mot ésotérisme, vous dites le mot lui-même est piégé tant il a été galvaudé. Il y a des mots fourre-tout que vous dégoupillez, si je peux dire, vous nous montrez que on fait fausse route en croyant que tel mot signifie telle chose.
Le mot ésotérisme, c'est un gros mot. D'abord, c'est un néologisme moderne qui apparaît au 19e siècle. Je vous mets au défi de trouver ésotérisme dans un ouvrage avant le 19e siècle. On va trouver ésotérique, oui. Ésotérikos, en grec, ça veut dire ce qui est caché. Parce qu'à une certaine époque, il était important de cacher le savoir, évidemment, et de tout temps d'ailleurs. Hein. Donc le mot ésotérisme, effectivement, j'incline vos auditeurs à se méfier. C'est un mot fourre-tout, ça ne veut strictement rien dire. Alors, je n'ai pas le choix que de l'utiliser dans l'ouvrage. Hein. Je parle effectivement à un moment donné de société proto-ésotérique. Oui, bien sûr, parce que sinon, ça m'obligeait à inventer un nouveau néologisme. Mais je n'aime pas tellement ce mot-là. Donc, il est entre guillemets un peu dangereux, très réducteur. Et puis, il va nous mettre dans une case de cette fameuse effectivement littérature ésotérique qui a très très bien fonctionné à la suite du Da Vinci Code, à laquelle j'ai été mêlé d'ailleurs à l'histoire du Da Vinci Code. Oh, oui, j'ai été mêlé à l'histoire du Da Vinci Code, puisque Rennes-le-Château et le Da Vinci Code donc, sont très très liés en fait. Hein. Et donc moi j'avais enquêté sur le prieuré de Sion à l'époque et dont j'avais dénoncé même toutes les bêtises qui sont dans l'île de Dan Brown, hein, dont j'ai eu beaucoup de succès puisque j'ai écrit au Rocher des ouvrages dessus. Et donc on a eu un regard justement d'intérêt pour l'ésotérisme à partir du Da Vinci Code. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus, bien sûr. Je démontrerai que dans le troisième tome, il va falloir se méfier aussi d'autres choses et d'autres prétendues spiritualités nouvelles, comme le New Age, qui existe depuis trop longtemps, mais le développement personnel, des choses comme ça. Ça, c'est pour le troisième tome. On se reverra, je pense, pour ça, pour en parler.
Et alors vous dites, ce livre est donc une invitation. C'est vrai que c'est une invitation au voyage, un voyage à travers le temps pour découvrir les savoirs perdus de nos ancêtres et un voyage intérieur pour affûter notre esprit critique face au mirage du temps présent. C'est une invitation au voyage et en même temps, vous nous montrez notre fascination pour le mystère. Donc, comme vous êtes un écrivain, vous écrivez, vous n'écriverez. J'imagine que vous êtes fasciné aussi par le rêve, le mystère, mais vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire vous ne voulez pas être dupe. De l'histoire, c'est-à-dire de ne pas être manipulé. Voilà, c'est le fait d'être un lecteur averti, d'avoir un regard averti sur ce qu'on est en train de lire.
Alors, vous avez dit que j'étais opticien, donc effectivement, j'ai une formation quelque part assez scientifique, je n'oserais pas dire cartésienne. Il faut se méfier d'ailleurs, Descartes n'était pas si cartésien qu'il a voulu le dire. Je le démontrerai d'ailleurs dans le tome 2, hein, quand il va aller à la recherche du Rose-Croix. Oui, j'ai toujours une démarche assez scientifique. Vous savez, un fait. Il y a un philosophe hindou, je crois au IIe siècle, qui a inventé le concept du tétralème. Le tétralème, c'est, vous avez une certaine vérité, vous savez, un certain fait. Ce fait, il peut être vrai. Il peut être faux. Il peut être à la fois vrai et faux, ou ni l'un ni l'autre. Et j'ai aujourd'hui une propension à raisonner comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir un fait, et ben je vais douter systématiquement sur le fait. Mais je crois qu'en définitive, il faut beaucoup douter pour croire.
Voilà. Et alors, bon, pour revenir, alors, parce que c'est un voyage dans le temps, Jean-Jacques Bedu, vous dites « L'humanité dès l'aube a tenté de donner un sens au silence de l'univers ». Et plus loin, on lit « Tandis que les néandertaliens demeuraient prisonniers du réel immédiat, Sapiens découvrait cette alchimie sublime qui transforme l'imaginaire en une puissance force sociale. » Donc, vous nous montrez l'évolution. Vous nous parlez, par exemple, du crâne de Arbin, c'est ça ? C'est découverte. Il y a des découvertes dans votre livre. Vous mêlez la découverte, ce qu'on croit connaître, et revisiter le passé.
Alors attention, à l'homme de Néandertal, on a une certaine propension à penser qu'il n'était pas intelligent. C'est pas vrai. D'abord parce qu'il avait un cerveau plus gros que Sapiens. Donc en théorie, il est peut-être même plus intelligent. Il est même mieux adapté à son univers. Il est beaucoup plus fort. Néandertal vit dans les régions d'Europe. Hein, donc, voilà. Donc, en fait, il n'est pas si bête que ça. Et d'ailleurs, on le sait, puisqu'on a vu les premières sépultures. Les premières sépultures que l'on découvre, c'est des sépultures néandertaliennes. Hein. Elles ne sont pas de sapiens. Alors, il y a la grosse différence, effectivement, entre sapiens et Néandertal, c'est dans la forme de son visage. C'est que sapiens a un menton. Grâce à ce menton, il va pouvoir produire des sons que ne produit pas Néandertal. Et là, je renvoie aux travaux de Yuval Harari dans Sapiens, une brève histoire d'une humanité, qu'il reprend d'autres scientifiques, mais qui sont très très intéressantes. C'est sur, effectivement, cognitivement, l'évolution du langage. Plus le langage va devenir sophistiqué, plus nous allons avoir tendance à inventer, à mentir, à créer des mythes. Et ces mythes vont permettre de fédérer des groupes de plus en plus importants.
Ce que vous appelez un mythogramme ?
Voilà, il faut imaginer qu'en réalité, il n'y a pas eu de bataille rangée entre Sapiens et Néandertal. Ils ne se sont pas affrontés dans une vallée les uns contre les autres. Non, grâce à ces mythes, grâce à cette capacité de langage, Sapiens a pu dépasser ces groupes de 150 personnes. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas dépasser 150 individus. C'est une loi dont je ne me souviens plus le nom de l'inventeur de cette loi, donc sans mener des alliances. Mais là, petit à petit, grâce à des mythes, et c'est là qui est intéressant parce que ces mythes relient les hommes, relient, religare, religion. C'est l'invention de la religion en fait à travers ça. Et donc ces groupes de plus en plus importants vont occuper les territoires de chasse de Néandertal. Et c'est comme ça que Néandertal va disparaître. Pas tout à fait. Il va pas tout à fait disparaître parce que nous avons de l'ADN de Néandertal. Nous en avons à peu près 2%. Et il y a une troisième lignée. Que l'on a découvert il y a quelques années, qui se trouve en Asie, ce sont les Dénovisiens. Et voilà, et c'est ce fameux crâne dont je parle. Donc, et cette lignée-là est tout aussi importante que Sapiens et Néandertal. Et vous avez par exemple des Tibétains qui ont aujourd'hui 6% d'ADN de Dénovisiens qui leur permet de supporter l'altitude. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de l'hybridation. Il y a eu immigration, hybridation. Alors, si vous voulez qu'on en revienne, il y a aussi quelque chose d'assez fascinant dont je parle dans le livre. C'est la première expression peut-être du sacré. C'est la découverte de l'art pariétal. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup de difficultés à lire et à comprendre pourquoi ces hommes et ces femmes, et ces enfants d'ailleurs aussi, vont aller dans les entrailles de la Terre. Une très forte symbolique, hein, évidemment. Et là, je renvoie à deux choses. Les travaux d'un préhistorien et surtout les travaux de Jean-Loïc Lequelec. Donc, il y a deux hypothèses. Était-ce des chamans ? Alors, il faut imaginer que ce n'est pas les chamans d'aujourd'hui, avec les tambours et les flonflons et tout ce que... Voilà. Hein. Ça, ce sont des choses certainement qui ont été perdues. Donc, est-ce que c'est un acte chamanique ? Parce que donc, ils s'enfoncent dans les entrailles de la Terre. Certes, ils ont découvert le feu, mais ils ont des toutes petites lampes. Ce n'est pas forcément évident. Et ils vont tracer sur la paroi ce qu'ils voient, ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Et cette paroi est en fait quelque part un petit peu le passage entre le monde visible et le monde invisible pour eux. En plus, le temps y est presque minéral dans ces grottes. Hein. Il y a une acoustique très particulière. On est en train d'ailleurs, il y a des gens qui reconstituent l'acoustique et qui se sont aperçus que dans le noir, ils arrivaient à se diriger avec l'écho de la voix. Et avec certaines résonances, on s'aperçoit que dans certaines salles où il y a des peintures, il y a une résonance particulière. Donc, ils se dirigent à la voix, pas forcément grâce au feu. Et ça, c'est incroyable. Donc, la grande théorie que j'aime beaucoup, qui est celle de Jean-Loïc Lequelec, c'est le mythe de l'émergence originelle. En fait. Et c'est ce mythe, il a à peu près calculé qu'on va le retrouver exactement 749 fois autour du monde. Donc Sapiens est parti d'Afrique aux alentours de moins 75 000. Il s'est arrêté dans une région qui est actuellement l'équivalent de la Mésopotamie, donc l'Irak, l'Iran, voilà, il a resté très très longtemps. Et puis il a commencé à essaimer. C'est là qu'il a rencontré d'un côté un Néandertal, de l'autre côté des Dénovisiens. Que nous dit le mythe de l'émergence originelle ? Donc ce mythe va traverser tous les continents. C'est que les hommes et les animaux vivaient en harmonie dans les entrailles de la Terre. Et à un moment donné, un animal malicieux, alors suivant certaines traditions, c'est le renard, c'est le corbeau, il faut toujours qu'il y ait un animal malicieux, hein, évidemment, dans la Bible, c'est le serpent, va incliner les hommes et les animaux à remonter à la surface. Et en remontant à la surface, ils vont perdre leur statut d'immortel, mais surtout, ils vont acquérir la connaissance. Je vous rappelle qu'il n'est pas question de péché originel à l'origine, hein, dans le péché originel serait tardif. C'est saint Augustin au IVe siècle. Hein. Voilà, ce mythe est extrêmement intéressant parce que c'est le plus grand mythe de l'humanité qui dépasse de loin celui du déluge. Et vous le trouvez dans de nombreuses traditions, qu'elles aient été orales et particulièrement chez les Navarros. Voilà.
On va faire une petite pause musicale. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Jean-Jacques Bedu qui nous présente l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Jean-Jacques Bedu, c'est vrai que c'est une Odyssée du savoir qui nous entraîne très loin. Et quelque chose de très important, c'est la notion de, je dirais presque, la mythologie de la caverne, la grotte. Le fait que des hommes se soient réfugiés dans des grottes et trouvé refuge à l'intérieur de la Terre, finalement, le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, pour l'art pariétal, pour le chamanisme. Vous nous décrivez aussi, Jean-Jacques Bedu, et j'essaye d'aller vite, le fait la mort, le rapport de l'humanité avec la mort, qui est quand même très particulier.
Ben, je crois que c'est ce qui nous distingue peut-être des animaux, peut-être. Je n'en suis pas sûr. Hein. C'est cette conscience, à un moment donné, que nous sommes des êtres mortels. Voilà. Et bon, bah, dès moins 100 000, hein, on va trouver des tombes ornées, effectivement, laissant penser qu'il y a des rites de passage. Voilà. Et c'est ce qui est très intéressant, parce que je pense que l'art pariétal nous dit à peu près exactement la même chose. Hein. Et petit à petit, ben, l'homme va s'interroger sur la vie. Après la vie, est-ce qu'il y a une vie au-delà? Qu'est-ce que la mort? Et en fait, toute notre quête de sens, elle est dictée par ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu témoigner dans cet ouvrage. Il va y avoir après, évidemment, toutes les sociétés à mystère. Je ne sais pas si vous voulez que nous nous en parlions. Hein.
Oui, alors, il y a toutes les... Alors... En fait, après, vous nous parlez, vous parlez des grottes ornées, de tout ce qu'on appellerait les croyances premières aussi. Hein. Alors, le mythe, alors il y en a un mythe qui a fait couler beaucoup d'encre, je pense à Pierre Benoît, le mythe de l'Atlantide. Vous dites le mythe de l'Atlantide est sans doute le plus emblématique de ces lectures littéralistes conçues à l'origine par Platon comme une parabole philosophique, un récit allégorique mettant en garde Athènes contre l'hubris. Il a été repris au pied de la lettre par des générations de chasseurs de mystères. Vous êtes aussi un chasseur de mystères, soit dit en passant, mais il y a beaucoup de chasseurs de mystères qui se sont emparés de ce mythe de l'Atlantide.
Chasseur de mystères, je le suis, amateur de mystères, bien sûr. Alors, c'est ce que Max Müller appelait la maladie du langage, c'est-à-dire de prendre le mythe au premier degré. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'est pas capable de lire le deuxième degré. Et c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, nous activons rarement notre système 2. C'est ça, en fait. On en reste à la surface des choses. Platon a écrit, j'adore Platon, hein, je dis au passage, donc Platon a écrit une allégorie. Il ne s'en est jamais caché. Il n'était pas question de parler d'une société perdue, là aussi encore technologiquement évoluée, hein, pas du tout. Il nous décrit une île au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, avec des êtres qui étaient certes très vertueux au départ, mais petit à petit vont devenir corrompus. Et surtout, ce qu'il y avait de pire pour les Grecs, c'était l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil absolu. Donc, ils vont être en proie à l'orgueil absolu. Et donc, ils vont attaquer tous les peuples de la Méditerranée et ils vont effectivement après attaquer Athènes. Et les dieux vont les détruire un jour et une nuit par un déluge. C'est très intéressant parce que ça parle beaucoup à notre époque, je trouve, ce mythe de l'Atlantide, parce que moi je ferai une analogie avec une société qui est au-delà des colonnes d'Hercule, qui est gagnée par l'hubris absolu en ce moment et qui est en train d'attaquer pas mal de peuples en Méditerranée. Donc vous voyez, c'est extrêmement actuel. Alors, ce mythe de l'Atlantide, en fait, personne ne s'y intéresse. Peut-être au XVIe siècle, on commence, je crois que c'est Athanase Kircher, qui est un polymathe exceptionnel, qui a été pas loin, et on l'oublie, de découvrir la clé des hiéroglyphes avant Champollion. Je précise au passage que les Arabes savaient traduire. Hein. Donc, au 7e siècle, ils savaient encore traduire. Et après, c'est perdu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent et qui après se retrouvent. Bon, on revient au XVIe siècle. Mais le mythe de l'Atlantide est très tardif. Il va revenir, bien sûr, au 19e avec des romans. Et puis, surtout, il va revenir avec des ozos, pardonnez-moi d'employer l'expression. Donc, on va voir la Société théosophique d'Elena Petrovna Blavatsky et d'autres. Je l'aime pas du tout, Alain. Donc là, je vais lui régler son compte au 3e tome, parce que la théosophie, ça a été vraiment, à mon sens, avec l'anthroposophie, j'espère que vous n'avez pas d'anthroposophe parmi vos auditeurs, mais toute cette mouvance-là a été vraiment terrible pour le 19e siècle et d'ailleurs a engendré beaucoup de problèmes. Donc en fait, c'est des mythes qui sont extrêmement récents. Voilà. Mais on aime ça, donc on va chercher à ça pour l'Atlantide, on l'a cherché. C'est quand même incroyable. Tant est que cette société existait, imagine, ils nous ont même pas laissé ni un tesson de poterie, ni une cuillère. Ils étaient très écolos, hein, en tout cas. Hein, voilà. Bon, donc restons-en au mythe. C'est un mythe merveilleux, un mythe fantastique, mais l'Atlantide, je suis désolé, ça n'a jamais existé. Et j'en reviens à mon propos de départ, faisons très attention. Parce qu'aujourd'hui, dans les travaux, ce que fait Graham Hancock, hein, dans Ancien Apocalypse, etc., je vous ai dit que c'est du racisme déguisé en mystère, c'est la vérité, mais attention, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la pseudo-archéologie, et la pseudo-archéologie est aujourd'hui la porte d'entrée des mouvements suprémacistes blancs aux États-Unis.
Oui, c'est ça, ce qui vous intéresse en fait, Jean-Jacques Vétu, c'est pas seulement le savoir, c'est l'usage qu'on en fait. La manipulation, ce qu'on fait dire au mythe. Alors vous aimez bien aussi Pythagore, où il y a des personnages aussi, ça pourrait être un vaste roman. Pythagore, vous l'aimez bien, c'est quand même...
Bah oui, alors Pythagore n'a pas inventé le théorème éponyme, il était connu à Babylone plusieurs siècles avant. Hein. Voilà. Mais alors Pythagore va former la véritable première société secrète, donc le maître de Crotone, dans laquelle d'ailleurs il accepte les femmes. Et ça, c'est pas très très courant, mais il y en a d'autres hein, quand même. Mais évidemment, lui, ce qui l'importe, c'est le nombre et l'harmonie du cosmos. Alors, on est face, dans cette société grecque et dans toute cette Méditerranée, face à un problème, c'est-à-dire que le polythéisme ne répond pas tout à fait aux aspirations des êtres à l'époque. Sur un point, c'est-à-dire que le polythéisme en fait ne s'intéresse pas à ce qui se passait après la mort. Voilà. D'où l'invention des sociétés, ce qu'on a appelé les sociétés à mystère. Donc ces sociétés initiatiques dans lesquelles on va apprendre à mourir avant de mourir. Voilà. Alors il y en a certaines, on sait peu de choses. Donc, par exemple, les mystères d'Eleusis, on ne sait strictement rien. C'est, à ma connaissance, la seule société secrète qui soit restée véritablement secrète. Parce que vous savez, pour moi, les sociétés secrètes, ça n'existe pas à cause des membres qui se flattent immédiatement d'en faire partie dès qu'ils y rentrent. Donc, il n'y a pas véritablement de société secrète. Mais là, il faut en convenir, on ne sait pas pourquoi chaque année, des milliers de femmes, d'hommes et des esclaves aussi, puisqu'ils étaient admis à condition que le maître paye. Et puis c'est marrant parce qu'il fallait payer aussi. Hein, donc c'est pas gratuit. Hein, donc là, il y a un business derrière ça. Donc faisait le chemin de nuit d'Éleusis jusqu'à Athènes. Voilà. Et ensuite, après, il rentrait dans une très très grande salle qu'on appelait le Télestérion. Et il y avait une cérémonie qui devait être quand même extrêmement intéressante et à peu près similaire à ce qui se passait dans les grottes avec l'acoustique. Voilà. Et là, on apprenait à mourir. Voilà. C'est tout ce que ces sociétés à mystère, et elles sont, écoutez, que ce soit le culte d'Isis, les cultes orphiques, le culte dionysiaque, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur le culte dionysiaque, bien sûr.
Donc on apprenait à philosopher.
Oui, mais d'ailleurs le mot philosophia est de Pythagore, et de l'invention de Pythagore, évidemment. On apprenait à mourir, bien sûr. C'est très important d'apprendre à mourir. Mourir avant de mourir, dit le prophète de l'islam. C'est ça qui est peut-être une de ses paroles les plus importantes.
Alors, ce qui est aussi important, Georges Abedu, c'est que vous montrez que le savoir, vous allez montrer la révolution de la galaxie Gutenberg. Hein. Vous montrez qu'au départ, le savoir est voué au secret, c'est-à-dire qu'il y a une forme, seuls les initiés peuvent accéder au savoir. Ça, vous le montrez très bien. Vous dites pour l'écrit, par exemple, chaque fois que l'on s'assoit pour écrire, on ressent le poids de cette histoire. La page devant soi n'est pas une surface vierge. Elle est héritière d'une longue lignée de tablettes, de rouleaux, de parchemins. Le geste, celui de tracer des lettres, est une réminiscence de celui du scribe sumérien, de l'enlumineur médiéval, du poète gravant ses vers sur la cire. Aujourd'hui, notre ambition est plus modeste, mais la fébrilité est la même. Écrire, c'est toujours tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrirait, si on écrivait, nous disait Marguerite Duras dans Écrire en 1993. Donc c'est vrai, vous montrez cette longue lignée de transmission. Comment on se transmet du savoir, des connaissances? Au départ, il y a quand même le secret, donc ces fameux mystères.
Alors ce qui est génial, d'abord, c'est l'invention de l'écriture. Alors, pourquoi on invente l'écriture? On va peut-être penser que c'est justement pour la transmission du savoir. Mais que nenni, en fait, l'écriture, elle est inventée pour une question pratique, c'est de comptabilité. Il faut savoir qu'aux alentours, l'écriture a été inventée à Sumer, on le sait, vers moins 3500. Mais c'est une période où on commerce énormément dans toutes les parties connues du monde. Hein. On va chercher de l'ambre de la Baltique quand même, hein, donc avec des comptoirs, bien sûr, avec des stations. Et on a besoin de compter les amphores, on a besoin de compter les moutons. Et on va inventer un système d'écriture qui sera en l'espèce écriture cunéiforme. Alors l'écriture va être inventée de manière tout à fait indépendante, à Sumer, en Égypte, en Chine et en Mésoamérique. Donc il n'y a pas de transmission là-dessus. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Et au départ, l'écriture sert à ça. Et là, on va revenir à Platon sur un point intéressant. C'est le dialogue entre le dieu Thoth, donc inventeur de l'écriture. Donc l'écriture, c'est le langage des dieux. Donc le dieu Thoth vient présenter au roi Thammuz son invention, l'écriture. Le roi Thammuz, il est un petit peu circonspect en disant très bien. Oui, c'est un remède, effectivement, contre la perte de la mémoire. Mais c'est aussi un poison. Parce que ce qui sera écrit sera l'illusion du savoir. N'est-ce pas merveilleux que 2500 ans avant les réseaux sociaux,
oui,
Platon nous ait averti sur l'illusion du savoir par rapport à ce qui pourrait être écrit et par rapport à ce qui pourrait être faux. Alors, l'écriture, c'est une chose. Alors, évidemment, après, elle va être réservée, entre guillemets, à des initiés. Je fais un petit préambule, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop ce terme initié, là aussi c'est un peu fourre-tout. Oui, il y avait des maisons de la sagesse, il y avait des maisons de vie, il y avait des
tablettes.
Voilà, c'est ça. Et puis on va mettre les premiers récits. Et un des tout premiers récits, c'est l'épopée d'Gilgamesh qu'on va découvrir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette épopée d'Gilgamesh? C'est quand même incroyable. Eh bien, c'est qu'il y a eu un déluge. Alors ça, le déluge, on le sait. On sait qu'en Mésopotamie, il y a eu aux alentours de peu près moins de 2500, moins 2500, moins 3000, beaucoup disent l'un ou l'autre, qu'il y a eu de très très grandes inondations. Ça, c'est vrai. On l'a retrouvé sur des couches géologiques. Et contrairement à ce que dit Graham Hancock, c'est pas mondial. C'est-à-dire que vous en avez dans certaines parties du monde, pas d'autres. Mais on sait qu'il y a eu effectivement des terres qui ont été recouvertes. Et dans cette épopée, Gilgamesh nous dit que les dieux ne sont pas contents. Ils sont rarement contents d'ailleurs, hein, les dieux à l'époque, parce que les hommes font trop de bruit. C'est, voilà. Et donc, ils décident de les punir. Et donc, ils vont quand même en sauver un. Et ils vont lui dire d'embarquer sur une arche avec un couple d'animaux, ce qu'il va faire. Et puis, à un moment donné, il y a une colombe qui va s'envoler. Voilà. Mais qu'est-ce que ça nous rappelle, ça ?
L'arche de Noé.
Voilà. Sauf qu'on est très, très, très antérieur à la Genèse. On est très antérieur. Donc, ça veut dire que le judaïsme est allé prendre... J'oserais dire tout prendre, pas tout prendre, non, parce qu'il y a une invention, c'est le monothéisme, bien sûr. Mais l'emprunt incroyable, c'est dans cette zone géographique-là, et peut-être on pourra parler des zoroastriens qui sont à la base de tout, à mon sens. Donc, ce sont ces emprunts, voilà.
Alors, ces emprunts, et puis aussi, il y a des idées reçues. Vous écrivez, l'écriture, en figeant la voix, lui donne l'immortalité, mais une immortalité silencieuse, en attente d'être animée par un lecteur. Ça me rappelle le livre de Daniel Salnave, Le don des morts, un très très beau livre qu'elle avait écrit. Vous dites, l'écriture offre un refuge à la pensée dissidente dans une culture orale fondée sur le consensus, une idée hétérodoxe à peu de chances de survivre. Et puis, il y a cette idée que l'écriture aurait précédé ou supplanté le langage parlé. Il y a un peu cette idée, encore une idée préconçue. Vous dites d'ailleurs, le langage articulé est bien antérieur à l'écriture.
Bah oui, évidemment, on en a parlé justement tout à l'heure, hein, dans, sur l'évolution du langage. Et ce qui était extrêmement important pour l'époque, c'était l'art de la mémoire. Hein. On a perdu l'art de la mémoire aujourd'hui. Hein. Vous savez, on était capable de réciter des milliers de vers, fut une époque. Voilà. Les griots en Afrique ont récité aussi énormément, même les bardes gaulois. Hein. D'ailleurs, les druides.
Oui.
N'écrivait pas. Il était strictement interdit. Ils n'ont rien laissé. Hein. Voilà. Donc le langage, la tradition orale, non seulement elle était très importante, mais en plus, elle était fiable. Contrairement à l'écriture, où on n'est pas sûr que certaines choses étaient écrites. Voilà. On se transmettait petit à petit des histoires. Mais on les déformait rarement parce qu'on va retrouver les mêmes histoires suivant certaines traditions, avec certes des toutes petites variantes. Hein. Et on en revient au mythe, effectivement, de la caverne de Jean-Loïc Le Callec, de la caverne originelle, qui se retrouve effectivement, certes, avec des petites variantes, mais c'est un mythe qui passe par la tradition orale, qui ne passe pas par l'écriture. Voilà.
Alors, vous écrivez, comme dit un adage linguistique, l'oral transcrit l'idée, l'écrit transcrit l'oral. Il n'y a donc pas lieu d'établir une supériorité absolue de l'un sur l'autre. C'est un peu, c'est toujours le débat, hein, inférieur, supérieur, établir une hiérarchie, finalement, entre des cultures, des connaissances.
Oui, ah ben ça, nous n'avons cessé qu'effectivement d'établir des hiérarchies entre les cultures. Hein, et c'est le temps que nous avons. Hein, nous sommes très, très orgueilleux. Considère que les cultures africaines sont des cultures qui n'existent pas d'ailleurs parce qu'elles n'ont pas d'écrit. Et pourtant, on le sait, il y a des traditions orales, hein, en Afrique, et ça, je vais beaucoup en parler dans le deuxième tome. Il n'y a pas de culture supérieure, c'est pas vrai. Il y a des cultures qui ont évolué de manière extrêmement différente, hein, plus ou moins vite, mais elles ont toutes évolué vers le même sens. Sans supériorité. Il n'y a fallu que l'homme blanc, effectivement, qui se déclare supérieur. Et ça, c'est tout. Alors, on va revenir aux théories racialistes du 19e siècle.
Vous n'aimez pas le 19e siècle ?
Ah non, non. Le 19e siècle, pour moi, c'est le pire de tous. Certes, il a engendré des génies comme Victor Hugo, mais c'est vraiment le pire des siècles qui va changer complètement notre vision du monde, nous rendre très supérieurs. C'est le siècle du grand colonialisme. Et je l'ai dit tout à l'heure, sur certaines idées, il y a des très, très mauvaises idées au 19e siècle. Hein, la théorie sur l'inégalité des races de Gobineau, etc., etc., qui feront que ça nous amènera au cataclysme du 20e.
Alors, la galaxie du Gutenberg, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Jean-Jacques Bedu. Ce qui est intéressant, quand vous dites la galaxie Gutenberg, désigne-moi un simple changement de support, qu'une métamorphose du milieu cognitif lui-même, reconfigurant nos habitudes mentales, bien plus sûrement que le contenu qu'il transporte. Et là, c'est très intéressant. On estime qu'en 1500, à peine 60 ans après la première Bible de Bayen, plus de 20 millions de volumes avaient déjà vu le jour, et qu'un siècle plus tard, ce chiffre atteignait près de 200 millions pour une Europe d'à peine 80 millions d'âmes. Jamais la connaissance n'avait circulé aussi vite et aussi loin. Vous interrogez sur la diffusion de la connaissance, sur la vitesse à laquelle ça va. On pense aujourd'hui, bien sûr, à l'intelligence artificielle.
Oui, alors évidemment. On a commune de dire que Gutenberg, alors, n'a pas inventé l'imprimerie déjà. Hein, quand même. Alors, c'est chinois, oui, d'abord. Et, oui, lui, mais il a inventé le caractère. Il faut qu'on reste à l'effet, oui. Sauf qu'ils n'avaient pas, ils n'ont pas compris l'intérêt de leur invention. Pour eux, ça n'avait pas d'intérêt, puis c'était véritablement dans la tradition orale. Alors, il faut savoir que il était à l'époque strictement interdit de posséder une Bible pour les clercs. Donc, c'est pour ça que, parce qu'on vous rendez compte, une Bible, on pouvait l'interpréter. Donc, l'Église n'acceptait pas que l'on puisse posséder une Bible. Et c'est pour ça que les Bibles vont être imprimées en premier. Et il va y avoir cette diffusion immédiate. Pour la Bible, c'est une chose. Mais un des grands succès du 15e siècle, enfin du 16e, ça reste quand même le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Combien de femmes vont mourir à cause de cet ouvrage-là ? Le poison et le remède. On en revient, effectivement, à l'intuition de Platon. Donc, méfions-nous de l'écrit, c'est ce que je ne cesse de dire. Et pourtant, j'écris des livres, mais ce n'est pas parce que c'est écrit que ça ne se fait
pas. Pour pas tout prendre comme parole d'évangile.
Ah, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Alors, bon, vous avez un regard sur... vous dites, il y a des phrases qui amènent à la réflexion. Vous dites, le livre imprimé devint un système nerveux externe pour l'humanité, une extension fiable de la mémoire consultable à volonté. C'est vrai que depuis l'imprimé, c'est notre mémoire, un peu comme l'ordinateur maintenant avec le disque dur, devient une autre extension de notre cerveau. Et pour l'intelligence artificielle, vous avez un véritable regard sur l'intelligence artificielle, Jean-Jacques Bedu. Vous dites, c'est le refrain constant des révolutions du savoir. Chaque nouveau médium inquiète parce qu'il semble nous faire perdre autant ce qu'il émerveille parce qu'il nous donne. Et ce que vous montrez, entre autres, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, certaines tablettes, mais en cunéiforme, vont être traduites. Il y a quand même du positif dans tout ça.
Ah non, mais plus que du positif, c'est-à-dire qu'il est à peu près certain qu'on va arriver, et ça a d'ailleurs commencé, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir à peu près certainement demain trouver les clés de ce qui nous manque dans le linéaire, dans beaucoup, peut-être que même le Voynich va être enfin traduit, et on va s'apercevoir là aussi que c'est une supercherie. Voilà, donc c'est un livre qui a été vendu fort cher à Rodolphe II de Habsbourg, en lui faisant croire qu'il y avait des formules alchimiques ou des formules secrètes ou que sais-je à l'intérieur. En réalité, je pense que c'est un coup de John Dee, de ce fameux sorcier qui était à la cour d'Elisabeth Ier, donc je pense que c'est une grosse supercherie, ce Voynich, mais nonobstant ce fait, je crois paradoxalement aux vertus de l'intelligence artificielle, mais toujours avec la même réserve de Platon, nous sommes face au remède et au poison. Alors là, ce n'est pas un problème de mémoire. La mémoire, de toute façon, nous l'avons perdue puisque nous l'avons déléguée à nos smartphones, et ça depuis fort longtemps. Par contre, c'est un remède contre les fake news.
Oui.
Moi, j'ai essayé toutes les intelligences artificielles de les piéger, entre guillemets.
Vous avez passé votre livre à l'intelligence artificielle ?
Alors, figurez-vous que sur le final, j'ai passé certains passages dans une intelligence artificielle, je ne veux pas faire d'une publicité, mais qui s'appelle Perplexity, qui est une intelligence artificielle de vérification avec des sources académiques. Eh ben, j'ai été surpris, il y avait des erreurs, il m'a révélé des erreurs sur des éditions originales, sur des choses, et certaines petites erreurs que j'avais commises et des non-sens. Et c'est là où je trouve que ça, c'est absolument génial. Ça va permettre effectivement d'aller vers des sources que nous ne connaissions pas. Mais l'intelligence artificielle n'a pas de sens. Dans le sens, si vous ne connaissez pas le sujet, vous pouvez l'interroger, elle va vous renvoyer une réponse assez moyenne. Elle ne faut que si vous connaissez votre sujet. Et si vous connaissez votre sujet, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Bon. Par contre, elle est un antidote aux fake news. Et j'en reviens à cette vérification intéressante que j'ai faite. C'est que je les ai toutes interrogées et je les ai poussées à bout, en leur demandant de me démontrer que l'Atlantide existait. Et même celle d'Elon Musk, qui est connue la pire de toutes, qui groque, a refusé à dire non, l'Atlantide est un mythe. Donc j'ai trouvé ça quand même extrêmement rassurant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes face à une information, et que cette information, vous avez un doute, eh ben, il serait pas incongru de passer à l'IA.
Ouais.
Et c'est ce que je fais aujourd'hui beaucoup sur Twitter, sur les feeds Twitter. Je m'intéresse à la géopolitique. Et il y a des choses, ben, particulièrement dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis, c'est très, très intéressant. Je fais des copies, je passe à l'IA. Et là, vous avez effectivement la réponse quasi immédiate. Donc, ben, ça, c'est une fake news.
Il y a eu un âge d'or pour les fake news, c'est le 19e siècle, c'est au 20e siècle, on est quand même bien lotis aussi.
Ah non, mais je pense que l'âge d'or, il arrive là. Oui, non, tout sera fake news demain. Donc c'est là où il va falloir être extrêmement prudent et peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider sur ce plan-là. Parce qu'alors, elle se nourrit à la fois de fake news, ça c'est vrai, mais comme elle était basée sur de la statistique, elle se nourrit aussi aujourd'hui de travaux académiques, de livres qu'elle a lu. On lui a fait digérer. Donc, je suis quand même assez optimiste sur ce plan-là. Par contre, là où je suis très, très pessimiste, c'est que nous avons délégué notre mémoire au smartphone, mais maintenant, l'intelligence artificielle, nous allons lui déléguer notre pensée. Et ça veut dire que, petit à petit, pas nous, parce que nous avons appris à raisonner, nous avons appris à réfléchir, mais nos enfants, la tranche qui a à peu près aujourd'hui 10-14 ans, pourquoi ils auraient besoin de réfléchir? Pourquoi? Ça ne sert à rien, puisque la réponse, elle est là. Une équation, une réponse... questions mathématiques, ils n'ont plus besoin. À telle enseigne que je disais hier qu'en Norvège, qui est très très avancé sur le plan du numérique, eh bien, ils viennent de strictement tout interdire et ils repartent avec le vieux cahier et le crayon, ce que je fais moi-même dans certains cas, pour prendre des notes, parce qu'évidemment, et ça on le sait, qu'en prenant des notes, tout simplement, en écrivant, on a une meilleure mémoire.
On va faire une petite pause musicale.
Lasst uns nicht etwas
Votre livre est une mine d'or pour tous les chasseurs de mystères, de fake news. Mais il y a quand même il y a les druides, par exemple. Hein. Les druides, je trouve qu'il y a tout un chapitre là-dessus où vous nous montrez un peu tout ce qu'on a pu raconter. Comme ils n'ont pas laissé de traces écrites, alors là, les créateurs de fake news s'en donnent à cœur joie.
Écoutez, il y a une BD géniale là-dessus qui est bien connue. Hein, donc, c'est Astérix.
Oui.
Alors, ils ont peut-être eu certains pressentiments. Vous savez, les druides dans la forêt des Carnutes. C'est raconté par Pline l'Ancien. Sauf que Pline l'Ancien n'a jamais mis les pieds en Gaule. Voilà. Donc, en fait, on ne sait rien. Très, très peu de choses. C'est extrêmement parcellaire. Et si on le sait, c'est grâce à Jules César et la guerre des Gaules. Hein. Voilà. Pourquoi les druides, ils n'ont absolument pas écrit? Je pense que c'était des êtres absolument extraordinaires. Donc, ils étaient à la fois médecins, ils étaient philosophes, ils étaient astrologues. Mais on ne sait rien. Tout le savoir était un savoir exclusivement oral et c'était voulu. Alors, quand vous avez aujourd'hui des cérémonies à Stonehenge, par exemple, vous les voyez là, tous habillés en blanc, en train de danser et parler de néo-druidisme, ça m'insupporte, pardonnez-moi. Hein. Pour moi, ça, c'est du sectarisme absolu, ce sont des imbéciles. Je me demande comment d'ailleurs on peut autoriser ça sur un tel site au risque de le dénaturer. Et si vous voulez, d'ailleurs, on peut dire quelques mots sur Stonehenge.
Oui, c'est très important dans votre...
On a dit que les druides avaient construit Stonehenge. Pas certainement, parce que le druidisme, il est à peu près à moins 500 et il va disparaître vers plus 800. Même pas. C'est beaucoup plus tôt. Donc, il va disparaître en Irlande. Donc, l'apogée des druides, c'est vraiment moins 500. Stonehenge, c'est moins 3000, moins 2500. On va arrêter sur moins 2500. Est-ce que Stonehenge est un mystère ? Pas du tout. Alors, je vais gâcher encore vos auditeurs. Mais on sait aujourd'hui à peu près tout sur Stonehenge. Mais ce qui est incroyable, comment aujourd'hui des paysans, ces paysans, ont déplacé de tels blocs de pierre qui provenaient de carrières qui sont distantes de 300 km. Voilà. Et même pire encore, la pierre d'autel qui pèse, je ne sais pas combien, je crois 50 tonnes, provient de 750 km au-dessus, c'est-à-dire d'Écosse. Alors, on a une explication à ça. Contrairement à ce que l'on a toujours cru, on a parlé de la navigation. On savait naviguer à l'époque, en moins de 2500, très bien. Ce n'est pas le cas. Par contre, il y avait une période glaciaire. Donc la pierre, elle a glissé pas mal. Ouais. Ça, c'était facile. Ensuite, il y a une partie de l'archéologie qui arrive aujourd'hui à reconstituer avec les outils de l'époque comment ils ont pu faire. Et les fameuses pierres bleues en dolérite proviennent d'une carrière du Pays de Galles. Et donc, ils ont réalisé exactement les mêmes mouvements à l'époque. Ils ont réalisé le même coffrage pour sortir les pierres. Et ils ont demandé à une classe de collégiens, d'une trentaine de collégiens, venez de le faire. Et bien, on voit ces collégiens en train de tirer sans aucune difficulté un bloc de près de 10 tonnes. Voilà. Alors, ce bloc, il a été déplacé. Alors, il faut savoir qu'il a été mis dans une autre carrière, enfin, un autre endroit avant Stonehenge. Et puis, il a été démonté et déplacé et mis à Stonehenge. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'histoire de Stonehenge. Il n'en reste que c'est un observatoire extraordinaire. Ouais. Pour l'époque, ils avaient une capacité merveilleuse. Et si vous me permettrez, j'aimerais dire, mais Stonehenge, c'est rien par rapport à ce que fut Göbekli Tepe. Oui. Parce que là, nous sommes en moins 9600. Imaginez, nous avons des chasseurs-cueilleurs, des êtres nomades qui ne connaissent absolument pas l'agriculture. En tout cas, l'agriculture industrielle. Ils savent cultiver un peu de blé, mais pas beaucoup. Voilà. Et voilà que ces êtres que l'on prend pour des ignares, vont ériger des piliers en T qui vont sculpter de manière assez magnifique, avec un bestiaire absolument incroyable, des animaux sauvages. Et ils vont s'installer ces piliers avec des ronds concentriques, et certains de ces piliers forment entre eux un triangle équilatéral parfait. Nous sommes en moins 9600. Qu'est-ce que ça nous dit ? Jusqu'à présent, le paradigme était le suivant. D'abord l'agriculture, ensuite la cité, et après la religion. Et voilà que nous sommes face à l'inverse. D'abord la religion, en tout cas le sacré, ensuite l'agriculture. Parce que comme par hasard, là nous sommes en Anatolie, c'est à cet lieu particulier va être inventée l'agriculture. Voilà. Et après, effectivement, la cité. Et évidemment, comme on n'a pas d'explication, mais si, on les a, il y a à peu près les explications. On a trouvé les silex. Hein, on sait comment ils ont taillé ces piliers, mais on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. On n'a pas le pourquoi. Et bien là, c'est là où revient la théorie des anciens astronautes, etc. C'est comme les pyramides, c'est pareil. On a un papyrus des pyramides. On sait exactement, c'est 800 blocs par jour qui étaient montés pendant 20 ans pour la pyramide de Khéops. Mais on sait très bien comment ils ont fait. Tout est noté sur le papyrus. Pas d'esclaves d'ailleurs, ça c'est intéressant. Et surtout, il y avait une véritable ville entière, il y avait un hôpital, ils savaient réduire les fractures. Il y a des jours de grève. Ils n'étaient pas contents quand ils n'étaient pas bien payés, les ouvriers. Et tout ça s'est consigné. Mais non, on va encore nous dire que ce sont des extraterrestres qui ont construit ça.
Alors pour l'Égypte ancienne, c'est vrai, ce que vous montrez entre autres, c'est aussi la manipulation de l'image du pharaon, par exemple, comment on gouverne par l'image aussi, ça date de l'Égypte. Les Chaldéens, alors là, on n'en finirait pas, qu'est-ce qu'on a utilisé, l'imaginaire chaldéen. Il y a un élément important, très important dans votre livre, Jean-Jacques Bedu, c'est ce glossaire dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que vous définissiez certains termes, par exemple les fausses croyances, termes génériques employés ici pour désigner désigner des contrefaçons modernes de la quête du sens authentique. Il s'agit principalement de récits pseudo-historiques et pseudo-archéologiques qui singent l'apparence des mythes fondateurs, origines fabuleuses, révélations secrètes, tout en trahissant l'esprit et la méthode des traditions véritables. Ces fausses croyances, dites-vous, par exemple, l'existence d'une Atlantide technologique cachée ou d'anciens astronautes bâtisseurs, flattent l'imaginaire du public par des raccourcis séduisants, sans rigueur ni humilité scientifique, et prospèrent souvent en servant des agendas idéologiques ou commerciaux. Je trouve que votre glossaire est très bien fait.
Alors écoutez, vous n'êtes pas la seule personne à me le dire, et ça c'est incroyable. Perico Lega sur Sud Radio me disait, mais ce glossaire, on pourrait en faire presque un livre. Et on s'était posé avec l'éditeur pour des questions, en disant, mais est-ce qu'on maintient le glossaire? Est-ce que c'est important en définitive? Eh bien, vous m'encouragez. Le deuxième tome a son glossaire et pareil, il sera aussi extrêmement important. Et j'ai trouvé qu'il me paraissait primordial parce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous lisez un terme qui vous peut paraître un peu difficile. J'ai renvoyé justement au glossaire, peut-être pour avoir une définition à un moment donné. Et puis, c'est pas mauvais non plus de répéter certaines choses. Et j'ai toujours, moi, personnellement, aimé les glossaires. J'aime les glossaires et les index.
C'est-à-dire que votre livre, Jean-Jacques Bedu, c'est comme un fleuve. C'est comme un fleuve. Et le glossaire, permet de revenir à l'essentiel. Par exemple, vous dites, contrairement à l'historiographie sérieuse, la pseudo-histoire, ça c'est au terme pseudo-histoire, n'applique pas la méthode critique, examen des sources, contextualisation, et vise à impressionner plutôt qu'à comprendre. Donc on revient à la source.
Oui, alors peut-être en définitive, on a peut-être dû le mettre au début, ce glossaire. Ça, c'est une question qu'on devrait se poser éventuellement, peut-être pour une réédition ou peut-être pour le deuxième tome, je ne sais pas, parce que ce n'est pas effectivement inintéressant d'entrer, de poser, ouais. Poser cette problématique-là, plutôt que de mettre un glossaire à la fin. Mais bon, en tout cas, je note son importance et j'en suis ravi. C'est quelque chose que j'avais vraiment tenu à mettre un glossaire, oui.
Autre particularité de votre ouvrage, Jean-Jacques Bedu, la partie, j'allais dire, digitale, la partie numérique. C'est-à-dire, vous avez fait, je dirais presque, c'est un livre évolutif. Vous ne prétendez pas avoir tout savoir, surtout. Je parle de fleuve, parce que c'est vivant, un fleuve. Donc, ça évolue, la connaissance, le savoir, l'archéologie, toujours en pleine évolution, justement, grâce à l'intelligence artificielle. Et vous avez fait exceptionnel, je pense, pour un auteur. Parallèlement à votre livre, on peut se reporter au site internet que vous avez créé.
Alors, je dirais que c'est pas par fausse humilité comme Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et en écrivant ces livres, je m'aperçois qu'en fait, l'immensité du savoir est incroyable. En fait, je ne sais rien. Point. Oui, alors pourquoi j'ai voulu faire un site internet? C'est parce que tout est effectivement et extrêmement évolutif. Donc, il y a des choses que j'ai écrites, mais qui demain ne seront peut-être plus vraies, parce qu'on va faire telle ou telle découverte scientifique. Et il y a des points qui... Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, j'ai republié un très très long passage sur la caverne originelle de Jean-Louis Le Quellec, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et systématiquement, dès qu'il y a une nouvelle découverte scientifique qui est en rapport avec le livre, par exemple les découvertes à Sulawesi, j'en ai vite parlé dans le livre, parce que c'était juste avant l'impression. Donc j'ai fait une note, pauvre éditeur, qu'est-ce que je ne lui ai pas fait vivre, en disant, mais ça, il faut qu'on le rajoute, il vient d'arriver ça et ça. Et alors, du coup, il y a un site internet pour ça, donc c'est découvert de Sulawesi. Donc jusqu'à présent, on croyait que Lascaux, moins 36 000, était l'expression la plus ancienne de l'art pariétal. Eh bien, c'est faux, on se retrouve à moins 68 000, donc en Indonésie, vous voyez. Et ça, j'ai eu juste le temps de le mettre dans le livre. Voilà, donc c'est pour ça que je ferai évoluer petit à petit à chaque tome, par le biais, c'est ce qui est génial, hein, par le biais effectivement d'un site internet. Si l'intelligence artificielle veut bien le référencer, ça sera notre problématique. Donc, l'évolution du savoir qui est infinie.
Quelle est
l'opinion là?
Il y a beaucoup de choses dans votre livre, Jean-Jacques Bedu. J'ai pas vu, il y a une polémique sur l'affaire Clausen, par exemple. Vous en parlez pas, l'affaire Clausen, sur l'origine de l'écriture, ça vous en parlez pas. Et puis, l'île de Pâques aussi. Une petite absence sur l'île de Pâques.
Ah, c'est plus tardif. C'est beaucoup plus tardif. On va attendre ça, le deuxième tome. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'île de Pâques. Voilà. Mais ça, par contre, j'en parle dans le deuxième tome, effectivement, de l'île de Pâques.
Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que vous, le lien que vous établissez avec vos lecteurs est important? Est-ce que vous avez déjà reçu des courriers de lecteurs? Vous faites des conférences? Est-ce que voilà, le suivi d'un livre par des lecteurs, c'est important? Parce que vous n'en êtes pas à votre premier livre. Est-ce que le fait de transmettre, bon, ça demande des années, un livre, mais après, il y a l'après-vie du livre, c'est-à-dire le partager avec les lecteurs. Est-ce que c'est important pour vous?
Ah, oui, bien sûr. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de faire véritablement de conférences. J'ai fait quelques interventions. J'en ai fait à Aix-en-Provence. J'en ai fait une à Perpignan la semaine dernière. J'ai fait une signature ici à Paris. Petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Mais ça fonctionne, par contre, pas mal sur les réseaux sociaux aussi. Hier, j'ai eu un commentaire absolument dithyrambique, quelqu'un avec lequel j'échange. Hein. Donc, petit à petit, ça se met en place. Et vous savez, bon, le travail est long, puis il y a 3 tomes, donc je crois qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour le moment, j'ai des retours très, très positifs. Je m'attendais à avoir des esprits chagrins. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement peut-être préparés à avoir d'autres vérités. Et comme je le répétais en préambule, pour moi, la réalité, elle est plus belle que la fiction. Mmh. Voilà. On a peut-être un peu marre de toutes ces fictions aujourd'hui et de se laisser emporter par ces fake news, pseudo-histoires, de tout ça. On a peut-être envie de revenir à l'essentiel.
Mmh. Comment vous définisseriez-vous? Êtes-vous un autodidacte? Voilà, comment vous... Parce que vous avez un parcours particulier. Hein, vous...
Je ne suis pas universitaire, c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure que j'étais opticien. Bon, je ne le suis plus l'année dernière puisque j'ai arrêté, j'ai vendu mon entreprise. Mais vous savez, Spinoza était polisseur de verres de lunettes. Hein. Donc, alors, je ne me comparerai surtout pas au merveilleux Spinoza. Mais oui, je suis un autodidacte. Je ne cesse de travailler depuis les années, la fin des années 80. Donc, je suis passionné. Je suis un passionné, tout simplement. Et tout ce que je veux, c'est rendre hommage au savoir, au véritable savoir, entre guillemets, aux recherches scientifiques qui sont souvent trop confidentielles. Voilà. Parce que on va préférer le sensationnel, mais il y a des gens qui font des trouvailles extraordinaires. Et moi, je veux leur rendre hommage à travers ce livre.
Il y a des personnages, j'imagine que, je ne sais pas si vous avez rencontré Dumézil, mais je pense que c'est un savant que vous auriez aimé.
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. J'aurais aimé rencontrer Paul Ricoeur aussi. Voilà, il y a des tas de personnages que je cite, hein, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration.
À quoi ressemble votre bibliothèque?
Je ne sais même pas combien j'ai de livres. Elle fait 4,20 m de haut, là. C'est aujourd'hui de beaucoup de choses qui sont accumulées, hein, de toutes mes passions, de tout ce que j'ai écrit. Mais c'est mon trésor, en fait. C'est ce que je lèguerai. J'ai dit à mes enfants, s'il vous plaît, gardez-la. Gardez-la.
Vous occupez du prix Mare Nostrum, enfin, aussi d'un site, hein, aussi, pareil, d'informations littéraires. Ça aussi, c'est une belle création.
Oui, oui, oui. On fait des critiques littéraires. J'ai pas mal de chroniqueurs. Et surtout, on essaye de faire des choses un petit peu différentes des autres. D'ailleurs, on lit les livres. Hein. Ça, c'est quand même important. On donne le voix au chapitre à des éditeurs qui sont moins connus, des éditeurs indépendants, parce que j'aime beaucoup les éditeurs indépendants, hein, surtout actuellement, parce qu'ils souffrent beaucoup, et puis des auteurs dont on ne voit pas parler, mais qui sont extrêmement talentueux. Hein.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir de lecture en gamin, ou d'un livre qui vous a fasciné, où on l'aperçoit en vitrine et on se dit, tiens, je vais... Un livre qui vous a attiré, qui a bouleversé votre vie?
La Sommoire de Zola a bouleversé véritablement mon existence, et le site de Corneille. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'ai pas fait d'études littéraires, hein. J'ai même pas été très très bon en définitive à l'école à l'époque en littérature, mais ce sont deux ouvrages dont je me souviens et qui m'ont profondément marqué.
Est-ce que vous écrivez en silence, en musique?
Toujours en musique, généralement avec du baroque, Jordi Savall. Ou...
Ah ouais. Ouais. Sur ordinateur, sur petit carnet?
Sur ordinateur, oui. Sur ordinateur, parce que je recompose sans cesse la phrase, comme un alchimiste face dans son creuset et ses alambics. Je ne cesse de refaire et de refaire et de refaire. Et c'est vrai que sur ce plan-là, l'ordinateur est excellent. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose en définitive.
Pour ce livre-là, l'Odyssée du savoir, d'abord le titre est très beau.
Alors oui, et ben c'est grâce à l'éditeur, parce que moi j'avais parlé de connaissance au départ, j'avais parlé de grande histoire de la connaissance, et l'éditeur donc a trouvé ce titre, l'Odyssée du savoir, qui effectivement est plus approprié.
Est-ce que vous l'avez, comment vous l'avez écrit? C'est-à-dire, bon, je sais qu'il y a des recherches bien avant, que vous avez dû faire, mais après il faut construire le livre, c'est comme une maison, donc comment vous l'avez construit?
Je vous ai parlé tout à l'heure de l'art de la mémoire, et vous parlez de maison, c'est très intéressant, parce qu'en fait, je construis mon ouvrage comme ça, c'est-à-dire que je mets des idées dans des pièces, en fait, et je me balade de pièce en pièce. C'était ça l'art de la mémoire, ouais. En fait. Et donc mes idées maîtresses, donc, dans les pièces de ma maison, je les mets, et je pratique cet art de la mémoire comme ça, et j'écris comme ça aussi. Tout ce que je fais est basé autour de l'art de la mémoire. Ça n'empêche pas, j'oublie des choses, hein, je vous rassure, hein, c'est...
Avec des titres, là j'ai pas l'ouvrage sur les yeux, mais avec des titres de chapitres qui sont importants. Les citations, vous n'en abusez pas?
Non, parce que... Non, c'est vrai que j'en ai peut-être un peu abusé sur le précédent. J'ai mis pas mal de citations sur le précédent, mais je crois que c'est pas le plus important. Il y a quelques citations, oui, mais je préfère quand même laisser glisser ma plume aujourd'hui et rendre hommage différemment aux auteurs que je cite.
Alors, il y a la forme, on n'en a pas parlé. Votre écriture, c'est quand même... Alors, c'est près de 600 pages, là. Je ne sais plus combien de pages.
Là, il fait 700 pages.
700 pages. Mais ça se lit très facilement. Alors, il y a un travail sur l'écriture?
Oui, depuis des années. Hein. Il y a un travail sur le style. Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que des fois, je le trouve un peu dur. Donc, je me suis dit, ah, tu aurais pu quand même être un peu plus facile sur tel ou tel sujet. Donc, j'essaye de corriger pour le deuxième tome. Donc, le deuxième tome va être un petit peu plus facile à lire sur certains points. Donc, pour ne pas être trop abscon, quoi, sur certains. Ouais.
Vous êtes fixé d'emblée des contraintes? Il y avait des pièges pour vous à éviter?
Les pièges, c'est justement de se laisser entraîner et de croire à certaines choses auxquelles il ne faut pas croire. C'est le premier, ce piège-là, hein, piège dans lequel je suis tombé précédemment, hein, dans certains ouvrages. Hein. Donc, essayez toujours d'avoir la rigueur. Je vous ai parlé tout à l'heure du tétralème. On fonctionne au tétralème. Oui, c'est vrai, mais ça peut être faux. Ça peut être vrai et faux. Voilà.
Le projet, donc, ça va être le tome 2. Donnez-nous un petit aperçu, un avant-goût du tome 2.
Ah, un grand, grand, grand chapitre sur l'islam. Un énorme chapitre sur l'islam, pour déconstruire beaucoup d'idées reçues sur l'islam, sur les origines de l'islam, sur quoi il se base, hein, donc dans le contexte de l'Arabie de l'époque, évidemment. Et puis après, nous allons nous balader au Moyen-Âge. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Moyen-Âge, hein, qui n'est pas un âge obscur, je m'inscris totalement en faux. C'est un âge absolument génial. C'est l'âge où on va inventer les universités. C'est l'âge, les moines ne sont pas que de vulgaires copistes, ils vont faire des inventions extraordinaires dans la métallurgie, dans l'hydrologie. Donc ça, on l'oublie. Non, le Moyen-Âge n'est pas un âge obscur. Hein. Donc ça, c'est totalement faux. Les terreurs de l'an 1000, on n'a jamais eu peur de l'an 1000. Donc voilà. Donc la vision du Moyen-Âge que nous avons, c'est parce que les humanistes de la Renaissance ont bien voulu donner, mais c'est pas vrai. Donc il y a une continuité tout à fait naturelle. Donc on va parler du Moyen-Âge, on va parler des cathares, parce que je suis dans une région qui... Je suis très très proche de ces fameux bons chrétiens, parce qu'il faudrait pas l'appeler des cathares. On va parler des Templiers aussi, hein, donc la légende des Templiers, puis on va parler aussi de la diffusion du secret dans le savoir, parce que là il va falloir après il va falloir masquer ce savoir. Parce que nous sommes face à l'Inquisition. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un très, très grand chapitre sur la manière dont est masqué le savoir à une certaine époque et comment il va ressurgir après, à la fin du XVIIe siècle. Voilà. Et puis, on va faire une balade en Afrique aussi. On va aller en Amérique. La fameuse Amérique qu'a découvert Christophe Colomb, qui, jusqu'à son dernier jour, n'a dit qu'il n'avait jamais découvert l'Amérique. Donc, il était persuadé d'être en Inde. Une petite anecdote sur le deuxième tome. Bon, vous savez que Amérique, c'est Américo Vespucci, hein, donc voilà. Mais vous savez que toute première fois qu'on va voir apparaître dans des cartes le mot America, eh bien, c'est à Saint-Dizier-des-Vosges. C'est marrant, hein? Voilà, donc ce sont des humanistes de Saint-Dizier-des-Vosges qui vont établir la première carte en mettant America dessus. Et ça, on ne le sait pas. C'est des petites anecdotes qu'on va trouver dans le deuxième tome qui déconstruisent un petit peu tout ce que l'on sait.
Donc j'en conclue que vous êtes. C'est un peu une boussole, cette Odyssée du savoir, Jean-Jacques Bedu. Il y a un mot qui est important pour vous, c'est le mot lumière.
Oui, 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 c'est le combat de l'ombre contre la lumière. Voilà, toujours.
Merci à vous, Jean-Jacques Bedu.
Merci.
L'émission Bibliomanie est à présent terminée, mais vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de Radio Libertaire. Chemin faisant, je vous encourage vivement à aller sur le site de Mare Nostrum, où vous pourrez prendre connaissance de la rentrée littéraire à travers des critiques et des recensions d'ouvrages mises chaque jour en ligne. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'Odyssée du Savoir, un site spécialement conçu et créé par l'auteur pour répondre à toutes vos questions autour de son livre. Vous pourrez ainsi feuilleter en ligne les 27 premières pages de l'Odyssée du Savoir paru aux éditions du Cerf et avoir un aperçu de sa table des matières et des thèmes abordés par Jean-Jacques Bedu. Bonne lecture à tous et surtout, n'oubliez pas que le savoir n'est pas une fin en soi, juste un chemin pour aller à la rencontre de l'autre.
Toto le tigre aimé, Conchita la danseuse. Toto le tigre aimé, Conchita malheureuse. Toto le tigre aimé, Conchita amoureuse. Du beau docteur Zorro à la langue mantaise. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Le beau Zorro disait, Conchita que t'es bête. Le beau Zorro disait, l'amour n'est qu'une fête. Ne durant qu'une nuit qu'à l'aurore on arrête. Le beau Zorro disait vraiment tu perds la tête. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Le tigre entendait tout et songeait impéto. Attends chacun son tour, attends mon beau Zorro. Attends, attends, attends le dernier numéro. Quand tu mettras la tête dans la gueule à Toto. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Sur la piste Zorro, le cœur toujours en quête. Pendant qu'il travaillait une nouvelle conquête, se pencha jusqu'au cou dans la gueule de la bête, qui d'un grand coup de croc lui fit perdre la tête. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Toto le tigre adore Conchita la danseuse, qui n'aime plus Zorro à la langue menteuse. Toto le tigre attend qu'elle soit amoureuse de notre beau dompteur à tête savoureuse. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Olé.
Ça va pas. Ça va pas. Rester immobile, seule façon ici de se mouvoir. Ou alors je me casse la gueule. Et je me tue. Non mais t'as vu ce que t'as fait de moi? T'as vu ce qu'il en reste? Nothing. Lord Nothing. Mais qu'est-ce qu'elle fait, bon Dieu? Elle est là, elle est pas là. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Et pourtant, il me suffit de fermer les yeux et tu es là.
Rien
de moi.
nuit jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie-moi, oublie tout, ne pense plus à
je fais de la chanson française, bien plantée dans mes charentaises, tango, musette et javanaise. À texte, j'ai mes opinions. J'ai pas le look d'une star people ni le pressbook du King. Plutôt l'outsider, les mid borderline. Mais j'ai du pep, du punch, du groove, du feeling et du swing. La French touch, c'est mon trip, j'ai même des fans. Je fais de la chanson française, bien plantée dans mes charentaises. Tango, musette et javanaise. À texte, j'ai mes opinions. Je reste cool, je suis rédigé un pull au top. Mon manager me plug dans les showcases. Et je performe en live en guest overbooké non-stop. J'ai plus d'un hit en stock dans l'attaché case. Je fais de la chanson française, j'ai soit dit entre parenthèses. Pas la culture entre deux chaises. Assis sur mes opinions. J'ai comme une start-up, je suis ready dans les starting blocks. Open pour les comebacks et le turnover. T-shirt, basket et jogging, ni cocktail, ni shit, ni coke. Showbiz, c'est pas un job pour les losers. Je fais de la chanson française, pour la gloire et pas pour le pèse. Je passe mes vacances en Corrèze. Je campe sur mes positions. Je fais de la chanson française, j'assume à fond, y'a pas de malaise. Je chante français, sauf quand je baise. Je reste sur mes positions. Pour faire un number one, il faut tout le kit du marketing. Discount, best of, le must, du packaging. Le blues, le flip, le spleen, les breaks, c'est pas sur mon planning. Mes clips et mes compacts sont en lazing. J'ai pas le look d'une star people, ni le pressbook du king. Outsider, limit borderline. Mais j'ai du pep, du punch, du groove, du feeling et